Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La Tunisie a émis un mandat d'amnistie internationale contre l'ancien président Moncef Marzouki. Il est accusé d'avoir porté atteinte aux intérêts nationaux. Le soulagement après la reprise cette semaine des liaisons maritimes entre l'Algérie et la France. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. La pandémie de Covid-19, le nombre d'hospitalisations et le nombre de passages en réanimation augmentent en France. Notamment, les autorités appellent les personnes éligibles à se faire administrer une dose de rappel du vaccin. Notre invité sera le docteur Luc Duquesnel, président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. Cela fait aujourd'hui 3 ans, ce drame à Marseille. 8 personnes étaient tuées dans l'effondrement de plusieurs immeubles rue d'Aubagne. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale. À l'occasion de l'élection présidentielle, il appelle à un choc de décentralisation extrême dans votre journal. La Tunisie a émis un mandat d'amnistie internationale contre l'ancien président Moncef Marzouki. Il est accusé d'avoir porté atteinte aux intérêts nationaux. C'est ce que rapporte l'agence de presse TAP qui cite le bureau de presse du premier tribunal d'instance de Tunis. Moncef Marzouki avait appelé la France lors d'une manifestation à Paris le 9 octobre à retirer son appui au régime du président Kais Saied qui s'est attribué en juillet dernier des pouvoirs exceptionnels. Moncef Marzouki a été le premier président élu après la révolution qui a renversé le régime de Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011 et il a dirigé la Tunisie jusqu'en 2014. Les Algériens peuvent de nouveau venir en France par bateau. Un ferry est arrivé mardi à Marseille avec à son bord près de 1000 passagers. Certains d'entre eux étaient bloqués en Algérie depuis le début de la pandémie et la fermeture des frontières en mars 2020. Cette reprise des liaisons maritimes représente un véritable soulagement, comme le souligne Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est une décision qui était attendue depuis longtemps, surtout depuis la réduction du nombre de cas positifs de la pandémie de Covid-19, puisque l'Algérie connaît une décrue depuis quelques semaines déjà. Et donc cela a encouragé les autorités non seulement à reprendre les liaisons aériennes au début de l'été dernier, renforcées durant le début de l'automne, et là la reprise effectivement des liaisons maritimes, parce qu'il y avait déjà beaucoup de plaintes par rapport aux vols, tous les vols vers l'Algérie, dans les deux sens sont souvent complets. Beaucoup de familles qui étaient bloquées pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19 voulaient visiter l'Algérie, visiter leurs proches et leurs familles. Et donc, pour la première fois depuis le 20 mars 2020, parce que c'était la date de l'arrêt des liaisons maritimes, un ferry a relié Alger à Marseille. C'était au grand soulagement des voyageurs, puisque cela va un peu permettre aux Algériens de voyager avec leur voiture, de transporter plus de marchandises. Et évidemment, il y aura plus de voyageurs parce que le ferry a la possibilité de transporter plus de personnes. C'est très bien reçu, et notamment par les agences de voyage qui ont souffert. Certains même ont mis la clé sous le paillasson en raison de l'arrêt des activités. Certains se sont retournés pour les agences de tourisme et de voyage vers ce qu'on appelle le tourisme intérieur, c'est-à-dire les Sud-Algériens, très prisés en période automne-hiver, et également vers les pays ruraux, malgré les difficultés comme la Tunisie ou comme l'Égypte. Donc cette reprise, pas uniquement avec la France, puisque la reprise des traversées avec l'Espagne a commencé le 21 octobre entre Alger et Oran et Alicante. Alicante n'est pas très loin d'Oran, c'est dans l'ouest algérien. Le ministère des Transports algérien avait annoncé la reprise de toutes les liaisons maritimes le 12 octobre dernier.
Cela illustre une forme de retour à la vie normale. Quelles sont aujourd'hui les différentes contraintes en Algérie liées à la Covid-19?
Tout le monde souhaite une reprise normale des activités. Évidemment, les autorités continuent de mener une campagne pour que les Algériens se vaccinent plus. On a constaté ces dernières semaines un peu chute du nombre des personnes qui voudraient se faire vacciner. Le ministre de la Santé, le professeur Ahmed Ben Bouzid, a fait des déclarations. Il a prévenu contre la quatrième vague, puisqu'il a été constaté dernièrement qu'il y a quand même des hausses de cas de Covid-19 dans certains pays européens, comme aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, et en France également. Et évidemment, les autorités ont prévenu que dans le cas où la pandémie repart, on reviendra donc à la fermeture et à l'arrêt des liaisons aériennes et maritimes. Mais bien sûr, le contrôle sanitaire est renforcé aux frontières. Et maintenant, l'Algérie demande aux voyageurs d'avoir au moins un PCR de 72 heures. pour monter dans un avion ou même pour la compagnie maritime, et aussi avoir le carnet de vaccins pour ceux qui viennent dans des zones où la pandémie est toujours, toujours importante. Mais bien sûr, toute la situation reste sous observation en attendant que la situation s'améliore.
Pour le moment, un pass vaccinal tel qu'il existe notamment au Maroc n'est pas d'actualité en Algérie.
La question est déposée au ministre de la Santé. Le ministre dit que c'est pas le moment parce que c'est déjà compliqué d'imposer un pass. Il y a beaucoup donc de réserves pour les Algériens et de craintes, d'hésitations par rapport à la vaccination. C'est à peine 10 millions d'Algériens sur 45 qui ont été vaccinés. C'est très peu. Les ministères de la Santé, les autorités sanitaires ont tablé sur au moins 70% du nombre de vaccinés à la fin 2021, mais visiblement cet objectif ne sera pas atteint. C'est pour cette raison qu'il y a donc une volonté des autorités d'encourager la vaccination, par exemple, pour le prochain match contre le Burkina Faso qualificatif à la Coupe du Monde du Qatar 2022, il y a eu donc des appels du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération algérienne de football, pour encourager les gens à aller se faire vacciner pour pouvoir accéder au stade. C'est une manière un peu de les inciter à aller se faire vacciner. On a constaté qu'il y a quand même de l'intérêt pour cette opération et qui pourrait être renouvelée. Mais pour que l'Algérie impose le passe sanitaire déjà très contesté en Europe, notamment en France, ce n'est pas le moment pour les autorités sanitaires de le faire.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. La campagne pour l'élection des assemblées populaires communales et de Wilaya a débuté hier en Algérie. C'est la dernière étape pour parachever le processus d'édification des institutions de l'État. La campagne électorale s'étalera sur 3 semaines. Les élections sont prévues le 27 novembre prochain. Le chef de la diplomatie américaine demande au chef de l'armée soudanaise de restaurer le gouvernement mené par des civils. Anthony Blinken s'est entretenu avec le général Abdel Fattah al-Burhan après le coup d'État du mois dernier. Il lui a demandé de libérer immédiatement toutes les personnalités politiques détenues depuis le 25 octobre et de retourner à un dialogue ramenant le Premier ministre Hamdok dans ses fonctions. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du rythme très préoccupant de transmission du Covid-19 en Europe actuellement. L'OMS craint un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février, une hausse des cas de Covid qui n'épargne pas la France, même si les autorités ne parlent pas de nouvelles vagues. Mais elles invitent les personnes éligibles à se faire administrer une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Cela concerne les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes âgées de comorbidité qui ont reçu une dernière dose depuis 6 mois et plus. Entretien avec le docteur Luc Duquesnel, président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français.
On voit que, comme dans beaucoup de pays, le virus circule plus. On a plus de cas tous les jours. Le nombre d'hospitalisations augmente. Le nombre de passages de personnes en réanimation aussi dans les hôpitaux français augmente. On a encore eu, je crois, une quarantaine de décès hier suite au Covid. Donc, ça circule plus. Alors, d'un autre côté, on peut dire que ça circule plutôt moins que dans d'autres pays, à peu près 4 fois moins que dans des pays comme l'Allemagne, d'autres pays où la circulation du virus est beaucoup plus importante, probablement du fait parce qu'en France, le fait de combiner aussi bien les mesures barrières que la vaccination, on est, je dirais, dans le trio de tête des pays conçus probablement avec le confinement aussi, bien sûr, et toutes ces mesures barrières, permettre une moindre circulation du virus.
L'annonce du pass sanitaire a eu un net effet sur l'augmentation de la vaccination et cela en est l'illustration aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, en effet, c'était un élément important, marquant. Pour autant, moi, je tiens à rappeler qu'en décembre 2020, on disait qu'en France, les mesures barrières ne seraient pas observées, que personne ne voudrait se vacciner. Aujourd'hui, on est un des pays les plus vaccinés au monde. Pour autant, il est vrai que le pass sanitaire fait que des gens qui n'étaient pas anti-vax, mais en tout cas étaient réticents, étaient méfiants, soit ont posé des questions. Je crois que les campagnes d'information étaient bien faites. On a répondu aussi aux questions, aux préoccupations de la population. Et que, je dirais qu'en France, on a su répondre présent, en tout cas aussi bien les professionnels pour vacciner que la population pour respecter les consignes qui étaient données. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la troisième dose, beaucoup de gens pensaient que finalement, voilà, j'ai fait mes 2 doses et puis, je suis protégé. Or non, le vaccin contre la Covid, c'est comme les autres vaccins. Le vaccin, le rappel contre le tétanos, et bien on le fait régulièrement. Et d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, jusqu'à 65 ans, c'est tous les 20 ans, les rappels, et bien après 65 ans, c'est tous les 10 ans. Ce qui veut dire que, à partir d'un certain âge, l'immunité, obtenue d'ailleurs soit en se vaccinant, Mais c'est la même chose d'ailleurs pour ceux qui ont fait le Covid. Quand on est âgé, son immunité liée au vaccin ou liée au fait d'avoir fait la maladie, elle diminue. On la perd beaucoup plus rapidement, d'où l'intérêt mais majeur pour la population qui a plus de 6 mois de sa deuxième dose, pour les plus de 65 ans, pour les gens avec des facteurs de comorbidité, mais aussi pour les professionnels de santé, de faire leur troisième injection 6 mois après la deuxième. Et aussi pour les personnes qui ont reçu une injection de Janssen, qui finalement protège un peu moins que prévu, eh bien, c'est faire cette injection avec un vaccin ARN messager, en général le Pfizer ou le Moderna, eh bien faire cette deuxième injection dès 2 mois après la première injection de Janssen.
Vous vous rappelez hein, l'importance de l'administration de cette troisième dose pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes qui présentent des comorbidités. Comment comprenez-vous le fait que cette troisième dose est pour le moment relativement peu administrée? Cela concerne environ une personne sur deux qui est éligible, je crois.
Voilà, il y a quelques jours, on était à 48%. Il est vrai que tous les jours, le nombre de personnes éligibles augmente, puisque aujourd'hui on peut vacciner, faire la troisième injection aux personnes à qui on a fait la deuxième injection il y a 6 mois. Et donc dans 15 jours, il y a aussi dans les 15 jours qui viennent, beaucoup d'autres patients qui vont devenir éligibles à la vaccination. Je crois que c'est un problème de communication. On a vu à quel point la communication qui avait été faite pour l'intérêt de se vacciner avait été bien comprise par la population. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément encore trouver le moyen de faire comprendre pourquoi fallait faire une troisième injection. Et que, bon, ben là, c'est le travail de nos communicants. Nous, on le fait dans nos cabinets, je dirais, tous les jours, pour les patients qu'on voit qui viennent pour un renouvellement de traitement, nos personnes âgées ou les patients qui ont des pathologies chroniques. On leur demande quand est-ce qu'ils ont fait leur deuxième injection. Et ensuite, on leur dit, eh bien, il faudra faire votre troisième injection à partir de cette date-là. Je dirais qu'il n'y a pas d'opposition. C'est juste comprendre l'intérêt d'eux parce que les Français pensaient qu'après avoir fait la deuxième injection, on était sorti de l'auberge, que c'était fini le Covid. Eh bien non, et de la même façon qu'il faut aussi respecter les mesures barrières. Parce que si aujourd'hui, on voit une augmentation de la circulation du virus, c'est de par l'abandon ou en tout cas la moindre utilisation des mesures barrières. On le voit tout particulièrement chez la population des plus de 65 ans, où on reprend ce qui est normal. On essaye de reprendre une vie normale comme avant le Covid, avec des thés dansants, des balles, un jeu de boules où finalement on n'a plus de masque, on se serre la main, on s'embrasse, et on arrive sur certains territoires en France, non seulement à des taux d'incidence bien sûr supérieurs à 50, mais même parfois supérieurs à 400.
Et pourtant, il s'agit de personnes doublement, voire parfois triplement vaccinées. Le risque de forme grave persiste, même s'il est minime.
Il est bien moindre, là, on voit bien, hein, les hospitalisations. C'est toutes les études, aussi bien françaises qu'étrangères. Hein. Les personnes aujourd'hui qu'on voit en réanimation sont avant tout des gens non vaccinés. Et on commence à voir en effet des personnes âgées ou des personnes avec des facteurs de comorbidité qui ont été les premiers à se faire vacciner. Il faut quand même savoir, on a commencé les vaccinations fin décembre hein, dans les EHPAD, fin décembre 2020, et puis la population générale en janvier et en février. Donc voilà, tout ça, ce sont des personnes qui aujourd'hui ont perdu toute ou partie de leur immunité, qui doivent faire leur troisième injection.
Le docteur Luc Duquesnel, président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. Et le Parlement autorise la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. L'Assemblée nationale a voté dans la matinée l'ultime mouture du projet de loi de vigilance sanitaire. Un vote par 118 voix pour, 89 contre et une abstention. Les tentatives de traverser de la Manche par des candidats à l'exil sur des bateaux se multiplient ces derniers jours au large du Nord et du Pas-de-Calais. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. De morts, un disparu, des centaines de personnes secourues en 2 jours. Hier matin, le corps d'un migrant a été retrouvé dans une embarcation remplie d'eau. À ses côtés, 2 personnes en état d'hypothermie sévère ont été transportées à l'hôpital. Un TER a percuté accidentellement 4 candidats à l'exil à Calais. Il y a un mort, un blessé en urgence absolue et 2 blessés légers. Un drame hier soir sur la voie ferrée reliant Dunkerque à Calais et c'est arrivé près d'un campement de migrants. Cela fait aujourd'hui 3 ans, ce drame à Marseille. 8 personnes étaient tuées dans l'effondrement de plusieurs immeubles rue d'Aubagne, au cœur de la cité phocéenne. L'enquête est toujours en cours. La justice a procédé à 3 mises en examen dans ce dossier. 19 axes et 90 propositions. Une 60aine d'organisations présentent le pacte du pouvoir de vivre, une initiative à 150 jours de l'élection présidentielle. Initiative pour un nouveau modèle de société solidarité écologique, sociale et démocratique. Parmi ces organisations, la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Nicolas Hulot, le Secours catholique, ATD Quart-Monde ou encore Emmaüs. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale, membre du Parti radical. À l'occasion de la présidentielle, il appelle à un choc de décentralisation, Bertrand Pancher.
Je réclame par exemple que le logement soit décentralisé. Je réclame également qu'on puisse faire des expérimentations en termes de police et de gendarmerie. Moi, je n'oublie pas que c'est le maréchal Pétain qui a nationalisé la police dans tous les pays qui nous entourent. Évidemment, la police, gendarmerie, bah, c'est sous le contrôle, évidemment, l'autorité des procureurs de la République. C'est très, très clair. Mais l'organisation, c'est-à-dire les résultats, les priorités locales, eh bien, elles sont définies par les élus locaux avec les populations concernées. Au moins, on peut rendre des comptes, on peut retravailler sur des objectifs, et vous verriez que tout ça serait beaucoup plus efficace que de lutter en permanence contre des tas dans le cadre de tas de priorités qui passent leur temps à changer. Il y a également les politiques en matière de transport. Je pense aussi qu'il faut rentrer dans le détail des politiques en matière d'éducation. Moi, je trouve que par exemple, les principaux de collèges, les proviseurs de lycées, eh bien, devraient être nommés mais à la fois par l'État, mais aussi par les élus locaux qui mettent des moyens pour renforcer les politiques éducatives. Et vous voyez que si nous faisions tout ça, eh bien ces politiques seraient beaucoup plus efficaces sur le plan territorial. Nos concitoyens, par le biais des élus locaux, diraient, bah écoutez, on sait exactement ce qu'on fait, on comprend ou on comprend pas, mais on s'engage davantage, et tout ça serait beaucoup plus clair. On a vraiment besoin d'un grand choc de décentralisation dans notre pays.
Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale, membre du Parti radical. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi 17, à 13h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal en langue française. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.